Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Rio de la Plata, la musique et le monde, chapitre 17, la soprano Ninon Valin découvre les Amériques. Bienvenue à toutes et à tous, et merci de votre fidélité à Carrefour des Amériques si vous nous écoutez en Belgique, en Suisse, en France et au Canada. En 1915, alors que la guerre des ports fait rage dans le nord de la France et en Belgique et que les Alliés installent les premières tranchées, à Paris, beaucoup de théâtres ont fermé. La soprano française Ninon Valin, qui est devenue une des cantatrices préférées du public de l'opéra comique, est invitée en Espagne, à Saint-Sébastien. Elle est mariée depuis 2 ans à un pianiste italien qui est aussi son agent artistique. Suite à ce concert, elle est engagée à Madrid et à Lisbonne au début de l'année 1915. Elle découvre l'Espagne qui l'éblouit. Ses récitals sont très suivis. Elle chante Brahms, Chabrier, Fauré, Chausson, Debussy et des compositeurs russes. Le succès est tel qu'elle doit souvent rajouter 3 ou 4 bis. Au Portugal, c'est le même émerveillement. À Lisbonne, le public ne veut plus la lâcher. Ninon Valin se sent comme chez elle dans ces pays. Des compositeurs comme Albéniz, Granados ou Manuel de Falla trouveront en elle une interprète idéale. Mais elle ne sait pas encore que l'univers hispanique va bientôt changer sa vie. Javier Perianés interprétait la valse numéro 1 des valses poétiques d'Enrique Granados. Quand Ninon Valin rentre à Paris, l'opéra comique, qui a rouvert ses portes en décembre 1914, a un nouveau directeur, Pierre Barthélémy Gueuzy, un personnage redoutable qui va tenter d'écarter Ninon des distributions. Alors qu'elle est toujours aussi adulée par le public, il faut l'influence du compositeur Xavier Leroux pour qu'il l'affiche dans Manon de Massenet, et c'est de nouveau un triomphe. Ninon ne rêve que d'une chose, s'en aller. Et puis l'Europe va être à feu et à sang. En ces temps de guerre, elle participe en avril 1916 au Palais des Glaces à des représentations lyriques données pour les blessés. Elle y chante notamment des extraits de Manon. Dans la salle, un impresario important l'entend. Il travaille notamment pour les compagnies italiennes qui organisent les saisons du Théâtre Colonne de Buenos Aires. Le lendemain du concert, raconte Ninon Valin, le fameux impresario d'Arrosa me convoque à son hôtel. « Voilà, mademoiselle, votre contrat, me dit-il, c'est pour le théâtre Colonne. » Quelle joie! J'allais pouvoir échapper aux griffes de mon satrape de directeur. Et tout cela grâce à un concert de charité et d'une carrière que j'ai faite en franc-tireur, sans aucun appui, sans subvention, sans protecteur. Elle rejoint alors Barcelone avec son mari et embarque le 3 mai sur le paquebot Tommaso di Savoia avec d'autres chanteurs français qui retrouvent à bord de nombreux artistes de la Scala de Milan qui avaient embarqué à Gênes. L'aventure sud-américaine de Nino Vallin commence. El Monito, le marron glacé de Vicente Loduca par le bandoneoniste Eduardo Arolas et son orchestre. Sur le paquebot qui conduit notre troupe lyrique en Amérique du Sud, chaque matin à 10h ont lieu des répétitions individuelles autour du piano du bar. Le soir, ce sont les ensembles au salon des premières. Au programme, Faust de Gounod, premier spectacle qu'ils interpréteront au Théâtre Colonne. Dès le deuxième jour, Ninon remarque un grand bonhomme un peu courbé. C'est André Messager. On va créer le mois prochain à Buenos Aires son opéra Béatrice et elle doit chanter le rôle-titre. L'autre célébrité sur le bateau, c'est Camille Saint-Saëns qui va diriger la création de Samson et Dalila. Et il y a aussi l'ami fidèle, Xavier Leroux, qui tiendra la baguette dans plusieurs représentations, dont celle d'un de ses opéras. Puis c'est l'arrivée dans la baie de Rio de Janeiro. Quelques heures passées à parcourir la ville et toute la troupe revient, les bras chargés de fleurs et de fruits exotiques. Le bateau peut repartir et il faudra encore de nombreuses heures avant qu'il entre dans le port de Buenos Aires. Quand Nino Vallin, depuis le bastingage, aperçoit la capitale argentine, la ville lui rappelle les métropoles américaines des films d'Hollywood. le troisième mouvement de la deuxième symphonie qu'Alberto Williams a composé à Buenos Aires en 1910. Le chef colombien Adrián Ávila Arsúsa à la tête de l'orchestre symphonique de Córdoba. Un enregistrement que nous devons à la Radio Nationale Argentine et à Boris Laurens et Claudio Castro que nous remercions chaleureusement. À peine débarqués, les artistes ont juste le temps de faire une rapide promenade dans le quartier du Théâtre Colonne, de jeter un coup d'œil sur les affiches de la saison qui a débuté le 20 mai par Boris Godunov de Moussorgski, chanté en italien avec dans le rôle-titre le baryton Tita Ruffo. Puis c'est la création de Samson et Dalila, dirigée par Saint-Saëns lui-même, et de la bataille de Legnano de Verdi. Enfin, le 25 mai, Faust de Gounod est à l'affiche. Ninon Valin s'est toujours souvenu de ses premiers pas sur l'immense scène du Théâtre Colonne lors de cette représentation de l'opéra de Gounod le jour de la fête nationale argentine, en présence du président de la République et de tous les ambassadeurs, et d'un public de gala en robe longue, bijoux et smoking. Le succès de Ninon Valin durant les 7 représentations de Faust qui se succèdent jusqu'au 25 juillet la rendent célèbre à Buenos Aires du jour au lendemain.
Non, 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 non plus toi, non, non, non.
L'ère des bijoux de Faust de Charles Gounod, Nino Valin soprano, l'orchestre était dirigé par Gustave Cloez. Le rythme des représentations et des répétitions est très soutenu. Il faut une technique solide pour résister. Alors qu'elle chante Faust, elle répète aussi Manon de Massenet, dont la première des cinq représentations a lieu le 1er juillet sous la direction de Xavier Leroux. À ses côtés, le ténor italien Tito Skipa, la basse française Marcel Journet, c'est le baryton belge Armand Crabbé qui interprète Lescaut. Le 15 juin, c'est Le secret de Suzanne de Wolf-Ferrari avec de nouveau Armand Crabbé. L'ouvrage est représenté en français. Et les 15 et 16 juin, elle chante le rôle-titre de Béatrice d'André Messager. Après Falstaff, la saison de Nino Valin s'achève à Buenos Aires le 8 août par la dernière représentation de Payas de Leon Cavallo. De tous ses rôles, c'est la Manon de Massenet qui restera son rôle fétiche. Elle le chantera régulièrement durant les 8 saisons où elle sera à l'affiche du théâtre Colonne entre 1916 et 1936.
Ah, per filo mano.
Il morto te.
Ah, per filo, per filo.
Questo che ti non repare, figli.
La 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 la.
Please. dans ton cœur, la vie dans tes yeux. Ah, viens, Manon, je t'aime, je t'aime. Ah,
le duo de Saint-Sulpice de Manon, de Jules Massenet, Ninon Vellin, soprano, Miguel Villabella, ténor, l'orchestre dirigé par François Ruhlmann. Lors de cette saison lyrique, est créé à Buenos Aires le premier opéra argentin américaniste, Huemac. On le doit à Pasquale de Rogatis, né en Italie en 1880 et venu enfant avec sa famille en Argentine. Trois représentations ont lieu au Théâtre Colonne les 22, 25 et 28 juillet. Puis l'œuvre est reprise à Montevideo où Ninon Vellin pourra y assister. Le livret de l'opéra est inspiré d'une ancienne légende mexicaine. L'action se déroule sous l'empire aztèque de Huemac II, dont le mariage avec une princesse donne lieu à de grandes festivités dans la ville. Des sujets d'un roi ennemi qui vénère un dieu exterminateur sont parvenus à se mêler à la fête et à s'emparer du roi et de la reine. Ils font entrer dans la ville leurs soldats qui incendient le temple. Lors d'un duel avec le roi Huemac, le souverain ennemi est gravement blessé. Il est à l'agonie quand il prédit l'arrivée prochaine d'hommes blancs. Huemac est resté seul avec les survivants. L'opéra s'achève alors que dans la brume de l'aube apparaît au loin la silhouette d'un guerrier espagnol. Pasquale De Rogatis a étudié avec Alberto Williams et il a été toujours très attiré par les légendes précolombiennes encore vivaces au sein des populations indigènes d'Argentine. Son opéra, Huemac, a eu beaucoup de succès lors de la création à Buenos Aires. Il a été repris au Théâtre Solis de Montevideo, puis à Rio de Janeiro et à São Paulo, avant d'être créé en Italie à l'Opéra de Rome. La partition a été malheureusement perdue, seules les danses symphoniques ont été retrouvées. Les danses de l'opéra Huemac de Pasquale De Rogatis. Pablo Boggiano à la tête de l'orchestre des jeunes Libertador San Martín. Merci de nouveau à Boris Laurens et à Claudio Castro de la Radio Nationale Argentine de nous avoir confié ces archives.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Avant de quitter Buenos Aires, Nino Valin chante au Théâtre Colonne les 11 et 12 août dans les Béatitudes de César Franck, aux côtés de Jacqueline Royer, Marcel Journet et Léon Lafitte, sous la direction d'André Messager. Puis c'est le départ en bateau en Uruguay. En arrivant le lendemain à la répétition, elle n'en revient pas de la beauté et de la grandeur du Théâtre Solis. Elle est à nouveau sur scène le 15 août, dans l'opéra de Xavier Leroux, Les Cadeaux de Noël, qui succède à la Somnambule de Bellini, un opéra que Nino Valin avait créé le 25 décembre 1915 à l'Opéra Comique de Paris. Un conte héroïque, comme l'intitule le compositeur. Quatre enfants, dont les parents ont été fusillés par des soldats allemands, parviennent à retrouver l'officier responsable de la tuerie et l'exécutent. L'opéra avait été interdit en Argentine, car le gouvernement tenait à sa neutralité et ne voulait surtout pas fâcher les autorités allemandes et leurs alliés. L'œuvre a été chaleureusement accueillie à Montevideo et le 10 septembre à Rio de Janeiro, quand André Messager, Xavier Leroux avaient poursuivi leur voyage jusqu'au Brésil avec plusieurs chanteurs de la troupe, comme Nino Valin et Armand Crabbé, qui lui va rester à São Paulo pour chanter plusieurs opéras. Puis c'est le retour, Retour prudent, car l'Italie a rejoint les Alliés et ses navires sont guettés par les sous-marins de l'Axe. Le soir, on calfeutre les hublots. Mais on chante aussi dans les salons du bateau pour alléger la tension que l'on ressent. Et Armand Crabbé est en première ligne. Il avait beaucoup chanté au Brésil et au Rio de la Plata. Et il parlait bien le portugais et l'espagnol. Il s'était fait un superbe répertoire de chants latino-américains. Comme ici, cette samba argentine, samba avec un Z, composée par Juan de Dios Filiberto, un des compositeurs de tango les plus renommés.
Con la voz de tu cara, ay, mamá, siento catorce. Siento catorce, sí, ay, mamá, así decía. Un enfermo de amor, ay, mamá, que se moría. Un enfermo de amor, ay, mamá, que se moría. Que se moría. Ay, tamba, vean que existe. Porque no lo han querido, ay, tamba, ya puesto triste. Porque no lo han querido, ay, tamba, ya puesto triste. Ay, tamba, tendré dos padres. Con los míos no puedo, ay, tamba, llorar mis males. Con los míos no puedo, ay, tamba, llorar mis males. Llorar mis males, sí, ay, tamba, ¿quién lo diría? Que sin haberme muerto, ay, tamba, te olvidaría.
En entendant cette samba argentine par le baryton belge Armand Crabbé, on se rend compte qu'il était vraiment le bout en train de la troupe en Amérique du Sud. À son retour en France, Nino Valin a retrouvé son refuge, une superbe maison en pleine campagne dans la commune du Grand Serre, au nord de la Drôme. Mais début 1917, elle refait ses valises pour Milan, où elle doit créer à la Scala Marouf d'Henri Rabaud et Manon de Massenet en italien, sous la direction d'André Messager. Puis elle rejoint l'Opéra de Rome, où elle chante Méphistophélée de Boïto aux côtés de Beniamo Gigli. Elle n'a même pas le temps de visiter la ville éternelle, car elle part aussitôt pour l'Espagne, où elle doit faire une série de récitals. C'est à Madrid qu'elle fait enfin la connaissance de Manuel de Falla, qu'elle admire tant. Lui-même avait déclaré à son retour de Paris « J'ai entendu un soir à l'Opéra Comique une jeune femme admirable dont je n'ai oublié ni le timbre ni la délicieuse musicalité. C'est elle que je veux. » Il pensait aux chansons populaires espagnoles qu'il était en train de composer. Ninon a beaucoup étudié la langue castillane qu'elle parle à présent couramment. Elle étudie ses mélodies avec le maître lui-même et les interprète avec un brio étonnant qui touche beaucoup Manuel de Falla.
No.
Ninon Valin et Godefroy Andolfi au piano interprétaient deux chants populaires espagnols de Manuel de Falla, la berceuse andalouse et la jota d'Aragon, qu'un jeune homme amoureux chante à celle qu'il aime et qu'il écoute en secret à sa fenêtre. Madrid voudrait bien retenir la soprano française, mais elle doit rejoindre le port de Cadix, car le théâtre Colón l'attend à Buenos Aires. Elle embarque à nouveau pour l'Argentine, mais toute seule cette fois, car elle s'est séparée de son époux. Cette année-là, un tango fait un grand succès dans la capitale argentine, El Moro, chanté par Carlos Gardel et José Razzano. Un tango inspiré d'une ancienne Vidalita de la Pampa, sur une poésie populaire du XIXe siècle que le duo avait à son répertoire depuis longtemps. « Où est le cheval mort que je chevauchais? Toi, l'Indien, rends-le-moi, il est toute ma vie. » C'est la première fois qu'un orchestre typique enregistre un tango avec un refrain chanté et même sifflé. Et pas n'importe quel orchestre, celui de Roberto Firpo. En 1917, on le voit, le tango avait encore de fortes racines folkloriques. En cette année 1917, plusieurs grands destins artistiques vont se croiser à Buenos Aires, notamment ceux de Ninon Valin, du pianiste Arthur Rubinstein et du chef d'orchestre suisse Ernest Ansermet. En 1916, Arthur Rubinstein quitte Londres pour une tournée de concert en Espagne où il décide de s'établir. Il lie amitié avec Manuel de Falla et assiste à la première de Nuit dans les Jardins d'Espagne le 9 avril. Une œuvre qu'il créera par la suite à Buenos Aires. De Falla l'invite dans un cabaret où danse Pastora Imperio, qui vient de triompher en Argentine et pour qui De Falla a composé les chants gitans de l'amour sorcier. À Madrid, Rubinstein rencontre aussi Diaghilev et Massine. Il assiste à une représentation des ballets russes et fait la connaissance d'Ernest Ansermet avec qui il joue le concerto de Tchaïkovski. Le 19 juin 1917, il embarque pour Buenos Aires. Pastora Imperio avait demandé à son admirateur Luis Mitre, le propriétaire du journal La Nación, de soutenir ce pianiste exceptionnel. Son premier concert, le 2 juillet 1917 au Théâtre Odéon, est magnifiquement annoncé et la salle est pleine. Rubinstein interprète Beethoven, Chopin, Liszt et déclenche un tonnerre d'applaudissements à la fin du nocturne pour la main gauche de Scriabine et surtout après Navarra d'Albéniz.
Thank you.
Navarra d'Albéniz par Arthur Rubinstein. Quant à Ernest Ansermet, qui est encore en Suisse, il ne sait pas à quel point les ballets russes vont bientôt changer sa vie. En 1915, il dirige l'orchestre de Lausanne quand Diaghilev et Stravinsky le contactent pour remplacer Pierre Monteux, alors sous les drapeaux, afin qu'il accompagne aux États-Unis la troupe des ballets russes. Il dirige ainsi 105 représentations à travers le pays. Très attiré depuis toujours par les musiques populaires, Ansermet découvre le jazz à New York. C'est un mot qu'on commençait tout juste à utiliser. Depuis quelques années, le pianiste Jelly Roll Morton faisait des tournées en Amérique latine où on connaissait son tango ragtime Jelly Roll Blues, publié aux États-Unis vers 1915. Roll Morton aimait beaucoup, dans les premières musiques de jazz, la couleur latina, the Latin tinge, comme il disait. C'est au début mai 1916 qu'Ernest Ansermet et la troupe de Diaghilev quittent les États-Unis pour l'Espagne, où les ballets russes dansent au Teatro Real de Madrid. Ansermet, qui a signé un engagement en Suisse, ne peut les accompagner que lors de leur tournée de mars à septembre 1917. Rome, Naples, Paris et surtout en mois d'août, l'Amérique du Sud. La grande danseuse étoile Lydia Lopokova est la partenaire de Václav Nijinsky, réconcilié avec Diaghilev. À Buenos Aires, Ansermet se retrouve avec un orchestre plutôt médiocre. Au grand étonnement de tous, et comme son prédécesseur en 1913, il fait tellement travailler les musiciens que le résultat est excellent. Au programme, on retrouve les ballets de la première tournée dans les sublimes décors de Bakst, mais aussi des nouveautés, comme le Soleil de nuit, chorégraphié par Massine sur la musique de Rimsky-Korsakov, la reprise du ballet de Marius Petipa, La princesse enchantée, sur la musique de Tchaïkovski, réorchestrée par Stravinsky. Stravinsky, dont la version intégrale de L'oiseau de feu est enfin représentée à Buenos Aires. Cléopâtre de Fokine, sur diverses musiques de compositeurs russes, Les femmes de bonne humeur, musique de Scarlatti, chorégraphie de Massine, et une surprise. Les Ménines, inspirées de Velázquez et créées en Espagne en 1916 sur la pavane de Gabriel Fauré. dans une chorégraphie de Massine et des décors de José María Serte. Les musiciens de Buenos Aires ont adoré Ernest Ansermet, qui n'imagine pas encore à quel point l'Argentine va bientôt compter pour lui. C'est avec ces Meninas espagnoles des ballets russes, dont c'était la dernière tournée en Amérique latine, qu'on se dit au revoir aujourd'hui. La pavane de Gabriel Fauré, dirigée par Armin Jordan à la tête de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, pour se quitter et se donner rendez-vous dans le prochain chapitre de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet et Éric Boisset que l'on peut écouter et réécouter en podcast.